بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc aujourd'hui c'est le premier cours inshallah qui sera hebdomadaire chaque mercredi entre le maghrib et l'aïcha, et on va traiter inshallah jusqu'à la fin de l'année l'explication des 40 hadiths an-nawawiyya. 40 hadiths an-nawawiyya, comme leur appellation l'indique, il s'agit d'une quarantaine de paroles du prophète qu'a sélectionné l'imam, le grand savant, le grand érudit, le grand ascète An-Nawawi. Il les a sélectionnées, il nous dit dans son introduction, parce qu'il considère qu'elles rassemblent, qu'elles résument la religion. Et chaque hadith, nous dit-il, comporte une règle juridique générale, un fondement dans la religion. Et il dit dans l'introduction que ce qui l'a motivé à compiler cette quarantaine de hadiths, c'est la volonté, bien entendu, de plaire à Dieu et d'entrer dans d'être englobé par la parole du prophète qui dit: celui qui va présenter à sa communauté 40 hadiths qui traitent de la religion, alors Dieu le récompensera, Dieu le ressuscitera le jour de la résurrection parmi les savants, les gens bien guidés, les hommes vertueux. Donc en lisant ce hadith, il a voulu en faire partie, et il n'est pas le premier. Lui-même il dit que je ne suis pas le premier à avoir compilé une quarantaine de hadiths, 40 hadiths, dans un domaine de la religion. Avant lui, il y a eu beaucoup de savants, mais dit-il, ceux qui m'ont précédé, ils ont choisi des hadiths liés à un domaine précis dans la religion, comme par exemple 40 hadiths autour de l'ascétisme, ou 40 hadiths autour du jihad, 40 hadiths autour de la recherche de la connaissance. Mais lui, il a une autre prétention, c'est 40 hadiths qui résument toute la religion. Donc lui, il veut être global, et même exhaustif. Et son maître, l'imam Ibn Salah, qu'est-ce qu'il faisait? Il a organisé une assise de manière régulière dans sa mosquée où il expliquait 40 hadiths qui résument la religion. Son maître. Donc il a assisté à cette explication, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a en fait mis par écrit. Et il en a rajouté. Parce que quand on dit une quarantaine ou 40, en fait il y en a 42 ou 43. Donc 40, c'est une quarantaine. Donc il a assisté à l'explication de ces hadiths auprès de son maître, et lui, il les a mis par écrit. Et dit-il, ce sont tous des hadiths authentiques, soit rapportés par al-Bukhari et Muslim, soit rapportés par d'autres grands savants, mais dit-il, je m'impose une exigence, c'est de ne rapporter que des hadiths authentiques, dignes d'être pris en considération. Donc on ne peut pas dire que ces 40 hadiths, et bien peut-être qu'il y en a un qui est faible. Non, selon Imam Nawawi, ils sont tous authentiques. Donc on n'a pas de problème quant à leur authenticité. Et l'imam Nawawi, c'est un très très grand savant. Non seulement il maîtrisait les sciences du hadith, la preuve c'est qu'il a rassemblé 40 hadiths, et il a examiner la chaîne des transmetteurs. Il a dit ce hadith, il est authentique. Et vous savez tous qu'il y a son fameux livre que tout le monde connaît. Il n'y a pas une mosquée où vous ne trouvez son livre, Riyad Salihin, le jardin des vertueux. Dans toutes les mosquées, vous trouvez ce livre. Et bien c'est lui c'est lui qui est derrière la parution de ce livre, puisque c'est lui qui a rassemblé aussi ces hadiths. Donc c'était non seulement un savant des sciences du hadith, mais c'était aussi un savant dans la jurisprudence. dans le droit musulman. Il appartient, il se réclame de l'école chafirite. Vous avez quatre écoles connues en islam, hein, quatre grandes écoles. Celle de l'imam Abu Hanifa, celle de l'imam Malik, celle de l'imam Shafi'i, celle de l'imam Ahmed. Il y en a d'autres, mais eux, ce sont les plus réputés, les plus en vogue aujourd'hui dans le monde. Et bien lui, il se réclame de qui? De l'école de pensée, l'école juridique de l'imam Shafi'i. Et il a son mot à dire, c'est-à-dire qu'il est capable, dans certaines questions, peut-être, de contester son maître, de donner son propre avis. Il a atteint un degré de connaissance dans la religion qui lui permettait parfois d'avoir des avis autonomes, indépendants. Et c'était également, et ça c'est très intéressant, il faut le remarquer, un homme d'une rare piété et d'un grand ascétisme. C'était quelqu'un qui ne s'est jamais marié et qui a vécu, il n'a vécu qu'une trentaine d'années. Et ceux qui l'ont côtoyé disaient que c'était un homme qui n'avait aucune attirance pour les plaisirs de ce bas monde. Il ne vivait que pour Dieu et la science. Il s'est totalement dévoué à cette noble tâche. Et il a énormément écrit, énormément. On dit que si on devait compter les pages de ses livres, c'est comme si depuis sa naissance, il avait écrit chaque jour je ne sais pas combien de pages. Tellement il a écrit. Et Dieu a mis la bénédiction, le baraka, dans sa vie et dans sa postérité. Parce que en une trentaine d'années, il a pu faire ce que rarement ont pu faire d'autres savants. Donc il a vécu peut-être la moitié de la vie d'autres savants et pourtant il les a surpassés. Et c'était quelqu'un qui ne dormait que très peu. Il ne dormait que par épuisement. Donc il était assis sur son bureau, je ne sais pas, et son élève ou là son ami disait que eh ben, quand il dormait, c'était par épuisement, il tombait sur son livre et il se réveillait juste après, il reprenait la lecture ou bien l'écriture ou bien l'adoration. Et donc c'était quelqu'un de très pieux. Et la preuve que c'était quelqu'un que Dieu a aimé, c'est qu'il a mis, comme on l'a dit, la bénédiction dans ses œuvres. La preuve, c'est qu'on parle de lui encore aujourd'hui, et on étudie son œuvre. Et Riyad Salihin, c'est un classique. Tout le monde le connaît. Dans le monde entier, on sait tous que c'est Riyad Salihin. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui Dieu a choisi un destin, etc. Bon. On va commencer par le premier hadith, l'explication du premier hadith. Et c'est pas pour rien qu'il commence par ce hadith. D'ailleurs, beaucoup de savants, quand ils commencent leurs livres, leurs œuvres, ils commencent par citer ce hadith, qui met l'accent, vous allez le voir, sur l'une des choses les plus essentielles dans notre religion, c'est ce qui se passe dans le cœur, c'est l'intention. Et ce hadith dit l'imam Shafi'i, il représente le tiers de la religion. Ce hadith, dans son importance et dans ce qu'il renferme comme enseignement, il représente le tiers de la religion. Et l'imam Ahmed, donc l'élève de l'imam Shafi'i, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est lui qui dit que il y a l'islam. La religion repose sur trois hadiths fondamentaux. Le premier, c'est celui qu'on va lire aujourd'hui. Le deuxième, c'est le hadith de Aïcha qui dit « Tout acte qui n'est pas conforme aux enseignements du prophète, toute innovation est à rejeter. » Troisième hadith, c'est celui de An-Nu'man ibn Bashir qui dit « Al-halal ubayyin wal-haram ubayyin » Le licite est désigné clairement et l'illicite a été clairement cité ou l'a clairement énoncé. Et entre eux, il y a certaines questions divergentes, perturbantes. Pourquoi est-ce que ici on dit que c'est le tiers de la religion? Parce que ici on parle de l'intention. Dans le hadith de Aïcha, on parle des conditions de validité de l'acte en apparence, les actes, parce que pour qu'un acte soit accepté, il faut deux choses. Premièrement, qu'il soit précédé d'une intention pure, sincère, et, mais pas simplement, mais aussi que l'application de l'acte soit conforme aux enseignements du prophète. Parce que je peux avoir une bonne intention, mais je fais quelque chose d'interdit. Par exemple, j'ai comme bonne intention de faire une aumône, donc de donner de l'argent, de faire la charité, donner de l'argent à un pauvre, mais je vais, cet argent, je vais aller le prendre de la poche de mon voisin. Donc j'ai volé de l'argent pour faire une sadaqa. Ben, j'ai une bonne intention, mais le moyen n'est pas bon. Donc il ne faut pas simplement que ton intention soit bonne, mais encore faut-il que l'acte en lui-même, eh ben, il réponde à certains critères, hein, il soit conforme aux enseignements du prophète. Ce hadith est rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce fameux compagnon, qui sera le deuxième calife de l'islam pendant une dizaine d'années. Il s'est converti à l'islam tardivement par rapport aux premiers musulmans, hein, quelques années après la révélation. Et vous connaissez, je pense, l'histoire de sa conversion, quand il est sorti un jour de chez lui, plein de rage, en s'étant promis de mettre fin à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en chemin, un homme va le rencontrer et va lui dire « Mais qu'est-ce qui te prend, Omar ?» Il avait son épée. Il a dit « C'en est fini pour Muhammad, je vais vous débarrasser de lui. » Et l'homme va lui dire « Tu devrais d'abord t'occuper de ta sœur. » Il lui a dit « Qu'est-ce qu'elle a ma sœur ? Ne sais-tu pas qu'elle s'est convertie à l'islam ?» Et là, il a fait demi-tour, il est parti chez sa sœur. Il commence d'abord par sa famille. Et arrivé à la porte de la maison de sa sœur, il a entendu les versets de Dieu être récités dans sa maison. Et là, il est rentré. Il les a pris en flagrant délit d'un crime. Et bien, c'est qu'il récitait la parole de Dieu. Et quand il est entré comme ça, hein, sa sœur a pris le parchemin, elle l'a caché dans ses vêtements. Et Omar va frapper son mari, le mari de sa sœur, son beau-frère. Et sa sœur va essayer de le défendre et il va la frapper avec son poing et il va la faire saigner. Et quand il va voir qu'il s'était emporté jusqu'à faire saigner sa sœur, il va un peu se calmer. Et il va dire à sa sœur, donne-moi ce parchemin. Elle va lui dire, non, tu ne le toucheras que si tu vas te purifier. Va te laver d'abord. Il va aller se laver, il va prendre le parchemin et il va lire la parole de Dieu. Et il va dire, où est Muhammad ? Et en fait, il va aller pour se convertir à l'islam. Donc il va maintenant, il était parti pour le tuer, mais après l'écoute de la parole de Dieu, la foi est entrée dans son cœur, il va aller chez le prophète, et je pense, si je ne me trompe pas, Hamza va dire, « Ya Rasulallah, Omar arrive, il va dire, avec ou sans son épée, ils vont dire avec son épée, il va dire, laissez-le, peut-être que Dieu lui veut du bien. » Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait une invocation. Il a dit à Allah, renforce l'islam par soit Omar ibn al-Khattab ou bien Amr ibn Hisham. C'est-à-dire Abu Jahl. Omar ou bien Abu Jahl. Parce que c'était deux personnes influentes, importantes, qui, si elles se convertissaient à l'islam, assurément, l'islam serait renforcé. Et c'est Omar ibn Khattab qui va se convertir à l'islam. Et effectivement, un compagnon dira, la conversion de Omar à l'islam, c'était une bénédiction pour nous, un renforcement pour l'islam. Son exil, la hijra qu'il a faite de la Mecque à Médine, c'était un honneur. Et sa période de califat, son califat pendant 10 ans, c'était une miséricorde pour les musulmans. Et le prophète a dit que la porte de la fitna s'ouvrira. Il a dit, vous allez connaître beaucoup de fitaines, beaucoup de perturbations, beaucoup de problèmes après que la porte se soit cassée, se soit brisée, se soit enfoncée. Ils ont dit, quelle est cette porte? Il a dit, c'est Omar. Quand Omar va être assassiné, c'est là que vont commencer les problèmes. Parce que lors de son califat, il a réussi à quoi? À imposer une sécurité, à imposer, la paix, la justice, et après son assassinat vont commencer les problèmes. Et Omar ibn al-Khattab, vous le savez, c'était un homme très juste, un homme très pieux, et Dieu, et Prophète Sam a dit, il y avait parmi les gens auparavant, avant l'islam, c'est-à-dire avant moi, des gens qui, lorsqu'ils parlaient, ils disaient la vérité, des gens inspirés, comme si Dieu parlait à travers leur bouche. Et dans ma communauté, c'est Omar qui en fait partie. Il y avait des gens auparavant qui étaient comme ça, et dans ma communauté, Omar en fait partie. Des gens, lorsqu'ils parlaient, c'était la vérité qui sortait de leur bouche. Et à plusieurs reprises, il a pu parfois avoir des avis, et Dieu a conforté son avis. Par exemple, dans l'histoire des prisonniers de la bataille de Badr, Abu Bakr et le prophète avaient un avis, comment les traiter. Et Omar avait un avis contraire. Et bien Dieu est venu conforter Omar dans son avis. Donc, il était inspiré par Dieu, c'est-à-dire quand il parlait, et bien c'était de la lumière qui sortait de sa bouche. Omar ibn al-Khattab rapporte, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Innama al-a'malu bin-niyat » ou « bin-niyya » « wa innama li kulli imri'in ma nawa » Les actes dépendent des intentions et vous ne serez récompensé qu'en fonction de votre intention. Les actes ne valent ou ne dépendent des intentions et la récompense sera conforme à votre intention. Ensuite, le prophète dit, et là il explique, il donne un exemple, il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Donc les actes dépendent des intentions ou ne valent que par les intentions et la récompense est conforme à l'intention. Vous ne serez récompensé qu'en fonction de votre intention. Et ensuite le prophète dit, quant à celui qui aura émigré, c'est-à-dire il aura quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Et ça c'était une émigration, un exil obligatoire. À un moment donné, Allah Azza wa Jal a demandé aux prophètes et aux compagnons de quitter la Mecque après 13 ans de persécution, et il leur était demandé de patienter. À un moment donné, Allah Azza wa Jal a dit, vous devez maintenant quitter ce territoire et vous rendre à Médine, parce que là vous allez pouvoir vivre en paix, vivre en paix avec des gens tolérants et des gens qui vont vous accepter. Et ici, il dit, celui qui aura émigré fait l'exil afin de plaire à Dieu et à son prophète. Alors, son émigration sera considérée comme telle, c'est-à-dire elle sera considérée comme étant un acte voué à Dieu et à son prophète. Quant à celui qui va émigrer, s'exiler, afin de rechercher un intérêt matériel, un intérêt dans cette vie d'ici-bas, ou afin de se marier avec une femme, alors son émigration sera considérée comme telle, c'est-à-dire elle ne sera pas pour Dieu et son prophète, mais pour un intérêt matériel ou pour un mariage. Et donc, il n'aura pas de récompense. En tout cas, pas la récompense de celui qui s'est sacrifié pour Dieu et son prophète. Et c'est ce qui s'est passé au temps du prophète. Un homme a voulu se marier avec Qais, une femme, et cette femme a dit, je ne t'épouserai que si tu fais l'exil, que si tu me rejoins à Médine. Donc en apparence, il a accompagné les gens dans leur exil, dans leur émigration, en apparence il a fait la hijra comme tout le monde, Mais grâce à ce hadith, on sait que cette personne n'avait pas la même intention que tout le monde, mais qu'il avait émigré simplement pour faire plaisir à, ou pour se faire plaisir à sa future épouse, se marier avec elle. Et donc cette personne n'a pas eu la récompense de celui qui s'est sacrifié pour Dieu et son prophète, parce que ce n'est pas ça qui l'a motivé. Pourtant, en apparence, il a laissé ses biens, il a accompagné les gens, mais dans le fond, il a une intention différente. L'intention, c'est extrêmement important. Parce que Allah Azza wa Jal dit, le prophète dit dans un hadith authentique, Dieu ne porte pas son regard sur vos corps et vos images, mais son regard est porté sur vos cœurs, donc ce que contiennent vos cœurs, donc votre intention et vos actes. Dieu, ça n'intéresse pas de savoir que tu es grand ou petit, blanc ou noir, riche ou pauvre, homme ou femme, arabe ou non arabe. Tout ça, ça n'intéresse pas. Ton corps, c'est pas... Allah Azza wa Jal, il t'a créé comme ça, c'est lui qui l'a choisi. Et c'est pas de ton ressort. Ta condition sociale, même chose. Tout ça, c'est pas important aux yeux de Dieu. Ce qui l'importe, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et surtout, qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire tes actes. Est-ce que ce sont des actes de bien ou des péchés que tu fais. C'est ça qui l'intéresse. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Mulk, « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. » Dieu a créé la vie et la mort afin de vous éprouver. Vous êtes sur terre pour être examiné, être testé. Donc je répète le verset, Dieu a créé la vie et la mort afin de savoir qui d'entre vous accomplit de bonnes œuvres. Al-Fudayl ibn Iyad, qui est un savant, un homme pieux, on lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire Al-Amal al-Salih. Ici, Dieu a dit, je veux voir si vous allez accomplir des actes vertueux. C'est quoi un acte vertueux? Quelque chose que Dieu aime. Il a dit, c'est une bonne intention, et un acte conforme à la sunna du prophète. Et c'est exactement ce que dit Dieu à la fin de Sourate Al-Kahf, quand il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui véritablement espère la rencontre de Dieu, le paradis en fait, alors qu'il accomplisse عَمَلٌ صَالِحٌ, c'est-à-dire un acte de bien, et qu'il n'est pas dans son intention, qu'il ne soit pas motivé dans cet acte par l'ostentation ou en fait le shirk. Le shirk, hein, c'est très large, c'est-à-dire tu ne fais pas les choses pour Dieu, mais tu les fais soit exclusivement pour les gens, ou tu les fais pour paraître, etc. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il a dit, celui qui veut le paradis, il doit à la fois accomplir un acte salih, c'est-à-dire conforme à ce que aux enseignements du prophète, et en même temps que son intention ne soit pas l'ostentation, ou le polythéisme, ou l'associationnisme, etc. Et les gens qui ont une bonne intention, on peut les répartir en trois catégories. Quand tu accomplis un acte de bien, tu peux être dans l'une de ces trois catégories. Et là, on part de l'intention. Tu accomplis, on va prendre l'exemple de la prière. Tu accomplis la prière, un acte de bien, conforme à la sunna. Maintenant, on s'intéresse à ce qu'il y a dans le cœur. Tu accomplis la prière par peur, c'est-à-dire par crainte de Dieu, par peur d'aller en enfer, par peur de te faire punir. Donc ici, il s'agit de l'adoration du serviteur qui craint son maître. Ça, c'est la première catégorie. Un adorateur qui adore par peur. peur du châtiment. Deuxième catégorie, un adorateur qui adore son Seigneur, non pas par peur, mais par espoir d'être récompensé. Et ça, c'est l'adoration de, on va dire, du commerçant, c'est-à-dire celui qui fait quelque chose pour recevoir. Il y a un intérêt. Et c'est possible que tu fasses un acte de bien simplement pour la récompense. C'est pas parce que tu as peur d'aller en enfer, mais c'est parce que tu veux aller au paradis, ou parce qu'on t'a dit, si tu fais ça, eh ben, tu auras ça au paradis. Donc tu es motivé par quoi? Par les hasanats, et non pas par la peur d'aller en enfer. Ça, c'est une deuxième forme d'adoration. La troisième forme d'adoration, la première, on a dit, c'est par peur. La deuxième, c'est par espoir de la récompense. La troisième, c'est ni la première ni la deuxième. La troisième, c'est le fait d'adorer Dieu simplement par amour, simplement parce qu'il te l'a demandé, simplement pour faire preuve de gratitude et de soumission. À votre avis, quelle est la meilleure attitude? Celui qui adore son Seigneur par peur de l'enfer, par espoir d'entrer au paradis ou d'avoir une récompense, ou celui qui adore son Seigneur simplement pour lui dire « Je t'aime, je te remercie, tu es mon maître et donc j'obéis à ce que tu me dis. » À votre avis? C'est logique, hein, et de toute façon on le sait. C'est comme notre relation avec nos parents. Donc ton papa te dit, ou ta maman te dit, tu dois bien travailler à l'école. D'accord? Soit tu travailles bien à l'école, hein, donc quand tu travailles bien à l'école, c'est parce que tu as peur que ton père ou là ta maman te dispute, te punisse, tu n'iras pas en vacances, tu n'auras pas ce cadeau, hein? Donc tu as peur de la punition, donc tu travailles bien à l'école simplement pour éviter d'être puni. Ou bien tu travailles bien à l'école pour que ton papa te donne, je sais pas moi, 10 euros à la fin de la semaine, ou pour qu'il te paie un voyage, ou bien tout simplement tu travailles bien à l'école pour faire plaisir à tes parents, pour leur dire je vous aime. C'est tout. Bien évidemment, l'enfant qui va obéir à ses parents simplement par amour et respect et gratitude, c'est celui-là le meilleur. C'est celui-là le meilleur. Et la preuve que c'est la meilleure forme d'adoration, c'était celle du prophète. C'est quoi la preuve? C'est que Aïcha radiallahu anha a dit un jour au prophète, alors qu'elle le voyait prier la nuit, veiller en prière, et ses pieds enflés, tellement il restait longtemps en position debout, en station debout. Il passait, hein, une grande partie de la nuit à prier, ses pieds enflés. Elle lui a dit, « Ya Rasulallah, ô prophète, pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu te fais souffrir alors que Dieu t'a pardonné tes péchés précédents et tes péchés à venir? » C'est-à-dire, le paradis t'est garanti. Non seulement tu n'iras pas en enfer, mais en plus tu seras dans les plus hauts lieux du paradis. Donc pourquoi tu te fatigues? Quelle était la réponse du prophète? Il n'a pas dit par peur de l'enfer, par amour du paradis, enfin par volonté d'entrer au paradis, il a dit « Afala akunu abdan shakura » Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Effectivement, Dieu, il m'a dit « Tu iras au paradis, tu seras le meilleur. » Et bien ça suppose de moi de l'amour et de la reconnaissance. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus haut degré. C'est que c'est pas tant l'enfer qui te torture ou le paradis qui t'anime, mais c'est simplement l'amour que tu as envers Dieu. Mais attention, hein, celui qui fait quelque chose par peur du châtiment, bah, celui qui est tenté par je ne sais trop quel péché, et on lui dit, voilà le hadith du prophète, voilà la menace de Dieu, et il revient sur ses pas, bah, il aura une bonne récompense, hein, c'est très bien. Mais ça aurait été mieux qu'au départ, il délaisse cette chose simplement par amour pour Dieu. Ce sont des degrés de quoi? De piété. Ça, c'est la première catégorie d'intention, c'est la bonne intention. On a dit qu'il peut prendre trois formes. Ensuite, vous avez l'inverse. Celui qui accomplit la prière, par exemple, pas pour plaire à Dieu, mais tout simplement pour paraître devant les gens. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Ce que je crains pour vous, Il parle à sa communauté. Je crains plus pour vous. Non. Il y a quelque chose qui me fait plus peur que la tentation de l'antéchrist, le Masih ad-Dajjal, qui est une grande fitna à la fin du monde. Il y a quelque chose qui me fait encore plus peur que cette tentation. C'est le fait d'accomplir la prière, c'est le fait d'entrer en prière et de la prolonger par ostentation. C'est-à-dire quelqu'un qui fait les adorations, qui les accomplit, les adorations, par ostentation. C'est-à-dire, simplement, il est motivé par le regard des gens. Et c'était ce que faisaient les hypocrites à l'époque du prophète. Quand ils venaient prier, ils ne venaient pas prier pour plaire à Dieu. Au contraire, la prière, c'était un calvaire pour eux, mais simplement pour qu'on pense que ce sont des musulmans. Ils ne soient pas montrés du doigt. Que leur fort intérieur ne soit pas dévoilé. Donc quelqu'un qui accomplirait un acte simplement pour plaire aux gens, pas pour plaire à Dieu, simplement pour plaire aux gens, pas pour plaire à Dieu, son acte n'est pas pris en compte. Quelqu'un qui prierait simplement pour qu'on dise « il prie », ou quelqu'un qui jeûnerait simplement pour qu'on dise « il jeûne », c'est ça qu'il a en tête. Ouais. Eh ben, son adoration, elle n'est pas vouée à Dieu. Donc elle est caduque, elle tombe à l'eau. Quelqu'un qui ferait une aumône, simplement pour qu'on dise c'est quelqu'un de généreux, simplement pour qu'on dise c'est quelqu'un, un homme de bien, son adoration tombe à l'eau, il n'aura pas de hasanat. Ou bien quelqu'un qui accomplit une aumône, qui donne une aumône à un pauvre, mais cette aumône est accompagnée de deux péchés. Soit elle mène, soit elle adha. Parce que Dieu dit dans Surat al-Baqarah, ô vous qui portez la foi, n'annulez pas, ne rendez pas caduques vos sadaqat, vos aumônes, par al-men ou al-adha, c'est-à-dire, al-adha, c'est-à-dire que tu fais suivre ton acte de bien par, par du tort. Donc tu donnes une aumône à un pauvre et en même temps tu lui fais ressentir qu'il est un moins que rien. Tu lui donnes avec orgueil. Hein, t'es méprisant ou ta sadaqa n'est pas bonne. Ou bien tu lui donnes dans le but qu'un jour il te soit redevable et tu lui rappelles sans cesse le bien que tu lui as fait. Comme ça il est toujours en position inférieure et toi en position supérieure. Ça annule le bien que tu aies pu faire. Donc ton intention, elle n'était pas bonne. Et bien l'acte que tu as fait, il n'était pas pour Dieu, c'était pas pour faire plaisir à Dieu, pour venir en aide à un pauvre parce que Dieu te l'a demandé, mais simplement pour que derrière il y ait un intérêt, ou pour lui faire ressentir que tu es supérieur, pour l'humilier. Tout ça, c'est pas bon. Maintenant, il y a une question qui se pose. Si l'intention doit être pure, sincère, vouée à Dieu, est-ce que ton acte tombe à l'eau si tu as une double intention, plaire à Dieu et plaire aux gens? Ça, c'est une bonne question. Je suis venu à la mosquée, pas simplement pour faire la prière, mais aussi pour rencontrer un ami, je lui ai donné rendez-vous à la mosquée. Je ne suis pas simplement venu à la mosquée pour écouter le cours, mais pour passer un bon moment, ou tout simplement pour profiter de la convivialité de l'endroit et peut-être boire un thé après. Est-ce que si tu mélanges deux intentions, une vouée à Dieu et une pour un intérêt, est-ce que ton acte tombe à l'eau? Sachez qu'il y a divergence. Certains sont rigoureux et disent « ce qui t'est demandé, c'est que tu fasses les choses exclusivement pour Dieu. » Et donc là, tu as mélangé, c'est pas bon. La preuve, c'est que le prophète a dit que Dieu a dit dans un hadith Qudsi, Dieu parle dans le « Je suis je suis l'associé le plus indépendant. Je suis l'associé le plus indépendant. » Ainsi donc, si qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand deux personnes s'associent, chacune dépend de l'autre, n'est-ce pas? Quand deux personnes s'associent, il y en a un qui apporte l'argent, l'autre la main d'œuvre, bref, 50% d'argent, l'autre 50%, chacun dépend de l'autre. Et bien quand toi, tu associes à Dieu quelque chose, donc tu accomplis un acte où tu vas associer l'intention de plaire à Dieu, l'intention de plaire à un être humain, donc finalement, ton acte, il a associé Dieu à quelqu'un, on ne parle pas du shirk, c'est pas ça qu'on veut dire, hein. Quand je dis associer, c'est-à-dire que tu as deux intentions, tu mélanges Dieu avec quelqu'un d'autre. Et bien le hadith ici, si on le prend hein, au sens littéral et le sens apparent, c'est que là, tu as voulu à la fois faire plaisir à quelqu'un et à la fois faire plaisir à Dieu. Et Dieu dit, je suis un associé là, mais le plus indépendant, je n'accepte pas hein, que tu me mettes avec quelqu'un. Mais c'est que moi que tu dois rechercher dans ton acte. Mais la vie qui paraît être le plus juste, hein, c'est que tout dépend. C'est quoi la première motivation, la première intention? C'est elle qui va décider. Est-ce que ce qui t'a motivé au départ, c'était de plaire aux gens ou là de plaire à Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a motivé au départ? Si par exemple, je suis sorti de chez moi pour venir à la mosquée dans l'intention de prier, et en cours de route, je reçois un appel téléphonique, qui me dit, un ami qui me dit, écoute, j'aimerais bien te voir et je dois te remettre de l'argent. Mais je veux que tu viennes à l'autre mosquée, pas celle où je comptais me rendre. Et donc tu changes d'orientation, tu vas dans une autre mosquée. Ta première intention en allant à la mosquée, c'était quoi? De prier. Mais est venue en cours de temps une deuxième intention, c'était de rencontrer cette personne et de récupérer mon argent. La preuve, c'est que j'ai changé de destination. Mais est-ce que là, je n'aurai pas la récompense de celui qui va à la mosquée et donc, quand il fait un pas, on l'élève d'un degré, une mauvaise action est retirée, quand il va rentrer, les anges vont prier sur lui, etc. Non, tu auras toutes ces hasanettes. Pourquoi? Parce que ta première intention, elle était bonne. Maintenant, il y en a une deuxième après, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Donc, tant que ta première intention était bonne, tu peux en rajouter 10 après, c'est pas un souci. Tant qu'au départ, tu avais cette bonne intention. La preuve aussi que tu peux mélanger, avoir l'intention de plaire à Dieu, mais aussi de plaire aux gens, ou avoir un intérêt matériel dans ce que tu fais. C'est quoi? Eh bien, c'est le hajj. Allah Azza wa Jalla, il l'a dit clairement. Dans le Baqara, quand il parle du pèlerinage, il dit, nul grief. Il n'y a aucun problème si, en accomplissant le hajj, vous recherchez un intérêt matériel, le commerce. Quelqu'un qui irait accomplir le hajj, il veut faire le hajj, mais en même temps, ouais, il se dit, ben, je vais en profiter pour acheter, pour vendre, parce qu'il y a des bonnes occasions, etc. Il n'y a aucun souci. Allah Azza wa Jalla, il a dit, c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc regardez, deux intentions, une vouée à Dieu et une matérielle, il n'y a pas de problème. Autre chose, deux hommes, deux compagnons, avant d'entrer dans la bataille, ils ont levé les mains au ciel, et l'un a dit, « Ya Allah, je voudrais rencontrer un ennemi farouche sur le champ de bataille, qu'il me combat et que je le combatte, et je finis par le tuer. » L'autre sahabi dit, « Je finis par le tuer et je prends sa dépouille, je prends son armure, tout ce qu'il y a comme valeur sur lui. » Regardez ce qu'il dit. « Je voudrais combattre dans ton sentier, rencontrer un ennemi farouche, un guerrier, et je finis par le tuer et prendre sa dépouille. » L'autre compagnon dira, « Quant à moi, Ya Allah, je te demande de rencontrer un guerrier courageux, farouche. On fait un duel et c'est lui qui me tue. Et il me coupe mes oreilles et mon nez. Ainsi, quand je te rencontrerai le jour de la résurrection, tu me diras pourquoi on t'a coupé le nez et les oreilles, je te dirai, pour te plaire. » Et tous les deux, leurs invocations ont été exaucées. Le compagnon qui a survécu, hein, il a dit, j'ai vu mon ami, dans l'état qu'il avait espéré, qu'il avait dit dans sa dua. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que le premier a dit, je veux combattre, tuer mon adversaire et prendre sa dépouille, c'est-à-dire un intérêt matériel. Il veut prendre l'argent qu'il a sur lui, sa monture, tout ce qu'il y a comme valeur. Et le prophète disait aux compagnons, celui qui tue un ennemi, il lui revient sa dépouille. Donc les compagnons, quand ils, parfois ils combattaient, ils choisissaient l'ennemi en fonction de quoi ? De la richesse qu'il a sur lui. Et ce n'est pas un souci. Parce que leur première intention en faisant le jihad, c'est combattre l'injustice, c'est plaire à Dieu. Maintenant, derrière un intérêt matériel, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème. C'est quand l'Aïcha, ça, exactement ? Hein ? 53. Dans 10 minutes. Non. Juste après, hein, après avoir dit que les actes dépendent des intentions et qu'on est rétribué en fonction de son intention, ça veut dire qu'on est rétribué en fonction de son acte. C'est-à-dire que plus ton intention est sincère, plus la récompense de l'acte sera élevée. Plus ton intention sera multiple et plus ton acte sera rétribué. C'est-à-dire, par exemple, tu es venu aujourd'hui à la mosquée. Il se peut que dans ta tête, tu aies eu une seule intention, c'est de venir assister au cours, ou de venir prier. Mais il se peut que quelqu'un d'autre ait eu comme intention de venir faire la prière, en groupe, de venir assister au cours, donc apprendre sa religion, mais aussi d'être assis aux côtés de mes frères, donc raffermir les liens de fraternité, mais aussi le fait de profiter de la miséricorde des anges qui sont présents, mais aussi le fait de faire une sadaqa à la mosquée, mais aussi le fait d'être élevé en degré pour chaque pas que j'ai fait. Et donc il se peut que tu aies 10 intentions en tête et en fonction de ça, tu seras récompensé. En fonction de ça. Et il y a un savant qui disait, quand j'entends quelqu'un frapper à la porte de ma maison, avant d'ouvrir, j'émets plus de 1000 intentions. C'est une exagération, c'est une image pour dire, avant d'ouvrir, eh ben, j'émets plusieurs intentions. Je vais ouvrir la porte, je vais sourire à mon ami, je vais... Et il commence à formuler plusieurs intentions pour avoir plusieurs hasanats. Voilà. Alors, à quoi sert l'intention ? À quoi sert-elle ? L'intention, elle sert à distinguer l'acte cultuel, l'acte d'adoration, de l'acte habituel du quotidien. Par exemple, quelqu'un qui prendrait sa douche. En apparence, il se lave. En apparence, il se lave. Il se peut que ce lavage soit un lavage habituel ou un lavage rituel. Ça veut dire quoi ? Un lavage habituel, c'est-à-dire qu'il a eu comme intention, en se lavant, de se rafraîchir, de se nettoyer, de se sentir bon, etc., etc. Et donc, ça sera un lavage habituel, hein, un acte quotidien. Il n'aura pas de récompense, forcément. Il n'a pas eu d'intention de quoi de plaire à Dieu, sauf s'il se dit... Je fais ça parce que Dieu aime l'hygiène, Dieu aime qu'on soit propre, etc. Mais partons du principe que sa seule intention, c'était « il fait trop chaud, je vais aller prendre une douche froide pour me rafraîchir ». Et bien cette même personne peut avoir l'intention, en faisant ce lavage, de quoi ? Et bien de lever l'état d'impureté majeure dans lequel il a ce qu'on appelle « janaba ». Donc quand il se lave, il a cette intention de quoi ? De se purifier pour pouvoir faire la prière. Ou bien quelqu'un, un autre exemple, quelqu'un qui donne de l'argent, hein, qui donne de l'argent à un pauvre. Il peut avoir l'intention simplement de donner de l'argent, donc un acte surérogatoire, comme il peut avoir l'intention de donner la zakat obligatoire. En apparence, il a donné, mais qu'est-ce qui va me faire savoir si c'est simplement une aumône facultative ou un acte obligatoire ? C'est quoi ? C'est son intention. Donc l'intention, elle a deux fonctions. Distinguer l'adoration de l'acte habituel quotidien, ou bien distinguer dans l'adoration ce qui relève de l'obligatoire ou du surérogatoire. Comme quand tu fais 2 rak'at, bah tu peux faire, ou quand tu fais 4 rak'at. Je ne peux pas savoir si tu fais 4 rak'at obligatoire ou la 4 rak'at surérogatoire. Tout dépend de ce que tu as dans ton cœur. Et je ne peux pas savoir si c'est 4 rak'at du dhuhr ou du asr. Tout dépend de ton intention. Je ne peux pas savoir si c'est un rattrapage, quelque chose qui tu avais oublié, ou quelque chose que tu fais à l'heure. Tout ça, ça se passe dans ton cœur. Donc c'est à ça que sert l'attention. C'est à distinguer l'adoration de ce qui n'est pas adoration, et dans l'adoration, distinguer les différents degrés, c'est-à-dire l'obligatoire du facultatif, ou le rattrapage des choses faites à l'heure, etc., etc. C'est à ça que sert l'intention. Maintenant, la fin du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la hijra. La hijra. Sachez qu'il y a eu une hijra obligatoire en islam, en tout cas à l'époque du prophète, c'est celle de quitter Médine vers la Mecque. Maintenant, il y a une hijra juste avant. C'est celle qu'ont faite certains compagnons sous la persécution mécoise quand ils sont partis en Abyssinie, al-Habasha, hein, chez le roi, le fameux roi chrétien Najashi. Notamment Uthman ibn Affan, il est parti. Maintenant, est-ce que la hijra, comme elle était entendue au temps du prophète, est-elle encore valable aujourd'hui? Doit-on encore quitter un territoire précis et se rendre dans un autre territoire? Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la terre appartient à Dieu, tu vas où tu veux, à condition que tu puisses pratiquer ta religion. À partir du moment où tu es dans une terre, hein, où tu peux pratiquer ta religion, tu peux être un musulman, tu vas où tu veux, tu es libre. On ne peut pas dire qu'il y aura un endroit interdit pour le musulman, un endroit autorisé. Tout est ouvert. Toute la terre appartient à Dieu. Et toute la terre est un endroit où on peut se prosterner, comme il est vu dans le hadith. Tu peux te prosterner dans tout les endroits sur terre, et pas un endroit où il serait interdit de se prosterner. Donc tout appartient à Dieu, tu peux faire ta prière où tu veux, tu peux aller où tu veux. Maintenant la question polémique de est-ce que on doit quitter un territoire sous gouvernance, sous autorité non musulmane, ou la population est à majorité non musulmane, ou bien est-ce qu'on a le droit? Sachez que Al-Mawardi, un grand savant, dit que celui qui viendrait à émigrer, quitter un pays musulman pour se rendre dans un pays non musulman. Si on peut se permettre ces abus de langage, un pays musulman vers un pays non musulman. Il n'a pas le droit de quitter ce pays non musulman s'il y est avec sa famille et qu'il peut pratiquer sa religion. Parce que s'il délaisse ce pays où il a pu pratiquer sa religion avec sa famille, eh ben, cette terre va être en fait exempte d'islam. Or, ce qui est demandé aux musulmans, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'islam soit partout. Parce que on a la fonction qu'avaient les prophètes, c'est de transmettre notre religion. Donc si notre religion n'a pas été présentée dans un endroit sur terre, on se doit d'y aller pour la présenter aux gens, parce qu'on considère que c'est une mission. On considère que c'est une mission. Nous avons comme mission d'inviter les gens vers la vérité, c'est-à-dire vers la religion de Dieu. Hein, et donc il faut se rendre partout. C'est ce qu'ont fait les compagnons après la mort du prophète. Ils ont commencé à quoi? À parcourir la terre en long et en large pour permettre aux gens de connaître la vérité. Voilà. Donc selon Al-Mawardi et d'autres savants, celui qui est ici n'a pas le droit de quitter. Alors lui, il partait du principe que tu as quitté un pays musulman pour un pays non musulman. Mais maintenant, on est dans un cas de figure, c'est que on est né dans un pays non musulman. Donc c'est encore à plus forte raison. Quand tu es né dans un pays non musulman, tu n'as pas le droit de le quitter sans raison. Parce que tu as une mission, c'est que là où tu te trouves, tu dois être à l'exemple du prophète pour que les gens n'aient pas d'excuses le jour de la résurrection quand Dieu va leur dire: pourquoi n'avez-vous pas répondu à mon appel? Ben, soit ils disent parce qu'on ne l'a pas entendu, et dans ce cas-là, nous, on est fautifs, soit ils disent on l'a entendu, mais on l'a refusé. Et là, ben, ils assument. Et donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de hijra quand on est dans un pays comme notre pays. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune raison, si ce n'est à titre personnel. Certaines personnes considèrent qu'ils doivent partir parce qu'ils ont du mal à pratiquer leur religion. Mais sachez que L'imam al-Mawardi dit que si on quittait tous un pays non musulman, ouais, eh ben on serait fautif parce qu'on aurait failli à notre mission. Notamment nous qui sommes ici dans notre pays et on a nos frères musulmans qui vivent ici, on n'a pas le droit de les délaisser. Parce que ceux qui disent il faut faire la hijra, ben, ils se rendent pas compte qu'en fait, si on devait tous répondre à leur appel. Non, d'abord, quand ils disent il faut faire la hijra, à votre avis, qui c'est qui va entendre ce qu'ils disent et leur obéir? Les meilleurs, ceux qui sont capables de délaisser les avantages de vivre dans un pays comme celui-ci pour aller dans un autre pays où ils seront en fait désavantagés. Donc en fait, ceux qui vont partir, ce sont ceux qui ont la plus grande foi. Et qui c'est qui va rester? C'est un cas, attention, hein, imaginaire. Ceux qui vont rester, ce sont ceux qui ont la foi la plus faible. C'est pas une vérité ce que je dis, mais partons du principe que on fait l'appel à la hijra, ceux qui vont partir, ce sont ceux qui sont capables de sacrifier les biens matériels dont ils jouissaient. Autrement dit, les meilleurs vont partir, qui va rester les plus faibles, et donc en fait, eh ben, ils vont être livrés à leur sort, et ils vont être égarés par les tentations de la société, et qui c'est qui sera responsable? Eh ben, c'est ceux qui les ont délaissés. Donc non seulement on a une obligation de rester pour pouvoir présenter l'islam aux non-musulmans, mais encore on a une plus grande obligation aujourd'hui, c'est de essayer de raffermir les musulmans faibles dans l'islam. Donc parler de hijra aujourd'hui, ici, c'est un non-sens, c'est même une trahison à la mission des prophètes. Wallahu a'lam, ça c'était le premier hadith. La semaine prochaine, on passera au deuxième hadith. Avant de clôturer, parce que c'est l'heure de l'Aïcha, y a-t-il une question ? Ah, les musulmans qui ont dû quitter l'Espagne, faire la hijra, c'est ça ? Oui, ben, ils ont dû quitter l'Espagne parce que, malgré eux, c'est-à-dire que ce n'est pas leur choix. À un moment donné, quand il y a eu la Reconquista, donc les chrétiens d'Europe, d'Occident, sont venus envahir l'Espagne musulmane, l'Andalousie, ben, ils se sont fait massacrer, et donc ils ont dû partir. Mais sache que, au départ, personne ne voulait quitter sa terre, bien évidemment, parce qu'ils sont là depuis 8 siècles, c'est leur terre, pourquoi est-ce qu'ils devraient la quitter? C'est injuste. Donc ils ont été forcés, ils ont été expatriés, mais certains sont quand même restés. Ils étaient tellement attachés à leur terre qu'ils ont dû dire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils sont musulmans. Donc l'attachement à la terre, il est tellement fort que parfois, hein, dans des circonstances comme celles qu'ont vécu les Espagnols, tu peux rester dans ta terre, hein, même si on t'empêche de pratiquer ta religion, parce que c'est ta terre. Et on ne sort pas de ma terre comme ça. C'est ma terre, j'y ai vécu, j'ai mes ancêtres qui sont là, j'ai mes biens qui sont là, pourquoi est-ce que je devrais partir? Non, je vais combattre et mourir pour ma terre. Et je mourrai martyr. Voilà, donc il n'y a pas... Non. Voilà. Donc Inch'Allah, on s'arrête ici. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين